bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien, Vers d'autres cieux. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue pour notre émission Sentez-vous bien, une émission sur la santé avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Alors aujourd'hui, vous aborderez la question des hormones en lien avec la parution d'un livre qui s'intitule « Le grand désordre hormonal » de Corinne Lalot, paru aux éditions Le Cherche Midi. Corinne Lalot est journaliste spécialiste en santé. C'est en quelque sorte la synthèse de ces 60 dernières années sur le sujet, docteur Jean Lindsay.
Ben, on a bien l'impression, oui. Corinne Lalot est grand reporter à la télévision depuis 30 ans et spécialisée dans la santé. Elle a fait un ouvrage que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs. Alors là, vraiment, c'est un bon investissement, hein. Le grand désordre hormonal de Corinne Lalot, car elle fait la synthèse de ce que la science nous a amené à découvrir petit à petit. Le premier ouvrage pivot, ça a été Le printemps silencieux de Rachel Carson, en 63. Ça met du temps, la science, à pénétrer le corps social. Hein. Ensuite, on a eu L'homme en voie de disparition de Théo Colborn, en 98. Ensuite sont venus Philippe Grandjean, qui est épidémiologiste à Copenhague et attaché à Harvard, à la grande université américaine, qui a écrit en francophonie un livre qui s'appelle « Cerveau en danger » de Philippe Grandjean, qui est remarquable. Et puis on a eu de chez nous, de France, Barbara Domenex du Muséum d'histoire naturelle, qui a écrit « Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale ». Barbara Domenex, quatre livres pivots. Et avec le livre de Corinne Lalot, eh bien, vous pouvez faire l'économie des quatre autres. Quoique, si vous êtes curieux, ça vaut la peine de les lire aussi. Hein. Et Corinne Lalot fait une très belle synthèse du sujet.
Et le rend un peu plus accessible au grand public.
Très accessible.
Et alors, docteur Jean Lindsay, par quoi on commence évoque ce sujet-là? Rappelez-nous ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, docteur Jean Lindsay.
C'est une molécule qui a des propriétés endocriniennes qui prend la place des hormones naturelles que notre corps fabrique. Et ça va soit activer anormalement, soit désactiver, soit inhiber anormalement. Ça détraque tout.
Où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens? D'où viennent-ils?
L'homme a fabriqué souvent ces perturbateurs endocriniens pour des raisons physico-chimiques, sans se rendre compte que ça avait des effets parallèles, qui n'étaient pas prévus, quoi, des propriétés, et agissent à des doses infinitésimales. Surtout la grosse affaire, c'est que ça agit à des doses très très faibles.
Et alors donc, on peut retrouver ça dans la pollution de l'air, on peut retrouver ça dans une bouteille de plastique, par exemple.
C'est tout ce qu'on mange, et tout ce qu'on boit, et tout ce qu'on respire.
Dit comme ça, ça peut faire peur, non?
Ben non, parce non. Que savoir, c'est pouvoir. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où on a bien identifié le danger, on peut prendre des contre-mesures. Mm-hmm. Alors là, avec les moyens de communication modernes, plus la science, eh ben, y a toutes les raisons de penser. Parce que les solutions, elles sont simples. Hein, c'est vélo, potager. Et avec le vélo...
Prendre soin de son environnement, en fait.
Vous,
hein, c'est ça.
Vous dépolluez l'atmosphère. Oui. Avec le potager et le maraîchage, vous mangez une nourriture saine. On vivait bio
sans le savoir.
Au 18e siècle.
Et sans le savoir.
Sans le savoir. La pollution, elle est liée à tout ce que l'homme a inventé. Ce qui est bien, avoir, par exemple, M. Diesel, Lui, il pensait qu'il allait libérer l'humanité de l'esclavage, de la nécessité de la force humaine. Et avec le moteur diesel, il pensait que les hommes, à l'époque, tout était fait à la force humaine. Il y avait juste les chevaux, vous voyez. Et donc, il s'est dit, je vais libérer l'humanité. Et bien, le diesel s'est révélé redoutable.
Il n'avait pas pu anticiper ce qui allait se passer.
Non, il ne pouvait pas anticiper. Oui. Mais maintenant, on sait. Mm-hmm. Donc, on fait des diesels dépollués. Le mouvement vélo, il n'y a pas plus dépolluant que se déplacer à vélo. Hein.
Ça, c'est vrai. Oui.
Je vous donne quelques exemples de molécules, je pense. Hein.
Oui.
La plus classique, c'est le bisphénol.
Qu'on trouve dans le plastique.
C'est le plastique transparent. Uh-huh. Pas tous les plastiques transparents, mais beaucoup de plastique. Par exemple, les CD.
D'accord. Et ça, c'est polluant et ça génère des perturbateurs endocriniens.
C'est estrogénique. C'est un assemblage de bisphénol. Quand vous faites comme une chaîne de bisphénol, vous les assemblez, les bisphénols, ça donne ce qu'on appelle le polycarbonate, c'est-à-dire le plastique transparent.
Oui.
Mais il y a des petits bouts, évidemment, de bisphénol qui s'en vont.
Imperceptible, quoi.
Imperceptible. Hein. Oui. Les tickets de caisse contiennent du bisphénol. Les biberons, on a eu un gros problème avec les biberons. Les biberons en bisphénol, avec du lait chaud, ça détache des bouts de bisphénol. Les biberons en polycarbonate faisaient que les bébés étaient imprégnés de bisphénol. Et le bisphénol, c'est la molécule qui était utilisée avant qu'on sache synthétiser les hormones sexuelles. Quand on faisait des expériences pour étudier le cycle hormonal chez les animaux, on utilisait du bisphénol pour déclencher l'ovulation chez les lapines. C'était la molécule la plus approchante des estrogènes.
Et on en a fait du plastique.
On a fait du plastique. Mais une fois que c'était en plastique, on s'est dit, c'est bien,
solide.
C'est solide. Puis on n'a pas vu qu'il y avait des petits bouts qui se détachaient et qu'on allait les retrouver partout dans la nature et que ça avait des propriétés. À l'époque, on pensait que c'était la dose qui faisait le poison. On se disait, de toute façon, il y en a un peu, mais c'est pas grave. Mais on s'est aperçu qu'un peu, c'est grave.
Uh-huh. Et donc aujourd'hui, on en mesure un peu plus les conséquences.
Bah oui, on a interdit le bisphénol.
Ça y est, c'est interdit.
Oui, oui, on légifère là-dessus. Oui, le dossier est sur la table, oui, ça c'est sûr.
Donc on rappelle le livre Le grand désordre hormonal de Corinne Lalot, paru aux éditions Le Cherche Midi, docteur Jean Lindsay.
Absolument.
Et vous le recommandez vivement.
Ah oui, très, très, très chaudement, oui.
Bon.
Lisez, faites lire, offrez Le grand désordre hormonal.
Merci beaucoup, docteur Jean Lindsay. C'était Sentez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Oscar.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine-Hélène Lopez. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Alors donc, vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui, vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors, de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement ?
C'est une courge butternut.
Donc type butternut, elle a des propriétés cette courge, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
Oui, apparemment la courge, elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons hivernales et c'est très bien pour combattre les virus.
D'accord.
Donc ça va renforcer les systèmes immunitaires. Donc c'est un légume qui c'est très bien pour manger pendant l'hiver.
De toute façon, comme ça arrive en hiver, on le mange l'hiver.
C'est bien, parce que c'est les fruits de la saison.
Voilà. Pour faire ce gratin de courge, Jasmine, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, bien évidemment, d'une courge.
D'une courge, bien sûr.
Petite butternut, comme on vient de le dire.
Oui, mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges.
En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco, ça on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut?
200 ml de lait de coco, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Oui.
Un oignon, une gousse d'ail et le sel, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage.
Top cuisine.
Et donc, pour préparer ce gratin de courge au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez là, Jasmine?
Déjà, on va déjà préchauffer le four. Et puis, on va prendre notre courge.
Oui.
On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi. On va bien la laver. On va la vider.
Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur.
Il y a des graines à l'intérieur, on va tout enlever et on va la couper en petites tranches.
D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur?
Comme vous voulez.
D'accord.
Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette.
D'accord.
Ça peut être dans la longueur, comme vous dites, ou sinon en rond.
D'accord.
Le plus important, c'est la couper en tranches.
D'accord.
Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, poivre. Et on va l'arroser avec huile d'olive.
Mais pas trop d'huile d'olive quand même, un petit peu.
Non, hein. Oui, j'ai mis 3 cuillères d'huile d'olive. Et puis ça dépend de la quantité.
3 cuillères à soupe ou...
3 cuillères à soupe.
3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Oui.
D'accord.
Mais ça dépend si ça c'est une grande courge.
Ça dépend de la grandeur, de la,
oui.
La grosseur de la courge.
Oui, mais sinon vous pouvez utiliser 1 cuillère ou 2 cuillères.
Et alors donc une fois qu'on a fait ça, on l'a disposé dans un plat, c'est ça?
On va le disposer dans un plat,
oui.
Dans un plat au four, si large, parce qu'il faut que chaque tranche à sa place, et puis on va l'enfourner.
D'accord. Et ça, pendant combien de temps?
Alors ça, le temps, on va se dire 10 minutes, mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après. On va la tourner.
Donc, le principe de base, c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes.
Oui.
On retourne la courge et on enfourne à nouveau 10 minutes pour cuire de l'autre côté.
Oui.
Donc, une fois qu'on a cuit la courge des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire?
On va l'enlever du four
et
on va préparer à côté dans une sauteuse ou en même temps que la courge est dans le four. Hein, on peut préparer à côté.
Pour gagner du temps.
Pour gagner du temps. Dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive, un tout petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que l'oignon il soit mou.
Pas grillé par contre.
Non, pas grillé parce que c'est pas bien pour la santé.
Ah, donc voilà.
De préférence, rajouter un peu d'eau.
D'accord.
Une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe
avec
d'eau.
Avec l'huile.
Avec l'huile. Mm-hmm. Comme
d'accord.
Ça va pas griller.
D'accord.
Ça va cuire doucement.
Mm-hmm.
Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, c'est vous aussi à voir. J'ai mis 200 millilitres de lait de coco.
Oui.
Mais pour ceux qui peut-être n'aiment pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins.
Oui.
Ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus.
C'est au
choix.
Selon le goût de chacun.
Selon le goût de chacun. Mmh. Voilà.
Et avec ce lait de coco.
On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec oignon et l'ail.
D'accord.
On va bien mélanger. On prend la préparation qui est la courge qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui aiment bien cuite, il y en a qui aiment quand c'est
plus ferme.
Plus ferme.
Mm-hmm.
Ça aussi, c'est au choix.
D'accord. Mais en général, vous laissez ça combien de temps au four?
10 minutes chaque côté.
Top cuisine.
Oui, ça, une fois que la courge elle est cuite des deux côtés, c'est fait. Mais ensuite, vous redisposez la courge dans le plat avec la sauce dont vous nous avez parlé, là.
Oui. Mmh. Une fois la courge cuite, on l'enlève du four.
Oui.
On prend la sauce qu'on vient de faire avec le lait de coco.
Oui.
On va la verser par-dessus de la courge.
Voilà. Et puis, on met le fromage pour terminer.
Oui.
Et donc, on remet tout au four.
On remet au four 10 minutes, c'est
le
bon.
Le temps que le fromage fonde.
Le temps que ça gratine un peu.
Et on sort du four.
On sort du four.
C'est prêt à manger.
On sert.
Voilà, ça donne envie.
Chaud. On sert, il faut que ça soit chaud.
Et c'est un plat complet.
Il fallait peut-être accompagner avec un peu du riz.
Du riz, par exemple.
Des pâtes, pour ceux qui aiment. un peu de...
Donc un petit accompagnement à côté.
Un petit accompagnement de côté.
Voilà, merci beaucoup Jasmilène Lopez.
De rien.
C'était le gratin de courge au lait de coco.
Oui.
Et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle proposition de recette, Jasmilène. De
et
quoi
oui.
est-ce que vous nous parlerez ?
La prochaine fois, j'ai pensé à vous proposer un dessert.
Un dessert.
C'est panna cotta au lait de coco, encore. Oui. Amandes et mangue.
Alors, on se régale d'avance. À bientôt. Merci. Au revoir, Jasmilène.
Au revoir. Merci.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio. The voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows home. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're relief from every care. In a little while we're going home, and no tears shall fall in that city bright and fair. In a little while we're going. We shall cross the billows home. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're gone.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bonjour et bienvenue pour notre émission Vers d'autres cieux.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
Alors vous venez à ce micro aujourd'hui nous proposer une réflexion à partir d'un texte de la Bible. Et c'est un passage de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors, Pierre Péchou, qu'est-ce que ce texte a à nous dire au fond ?
Alors, ce texte déjà, il parle de Jésus, ou plus précisément, c'est Jésus qui parle.
Oui, c'est Jésus qui parle dans ce texte.
Voilà, donc ça c'est important à le dire. Donc Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Du coup, je vous relis le texte. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Ce texte, c'est un texte du début du livre de l'Apocalypse. Et c'est le thème de la venue de Jésus en fait. Alors, quand j'ai dit ça...
Quand vous dites la venue de Jésus, à quoi vous faites allusion ?
Alors, deux choses différentes. le Nouveau Testament commence par nous présenter ce qu'on appelle le temps où Jésus était parmi nous. C'est un temps avec ses disciples, d'enseignement, de représentation du vrai Dieu. Et c'est un temps qui durera quelques années jusqu'à Jésus arrêté, mort sur la croix, ressuscité, qui monte au ciel. Mais quand il monte au ciel, il dit aussi « je reviendrai ». Alors souvent quand on parle de la venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle plus précisément le retour de Jésus. Là, on est au cœur de l'espérance chrétienne. Jésus est venu, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, mais il dit « je reviendrai vous chercher pour vous prendre avec moi ». En même temps, quand Jésus est ressuscité avant de monter définitivement au ciel, il passe quelque temps avec les disciples, et là, il leur dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et on est dans cette tension qui est très biblique entre un déjà accompli et un à venir. Et donc, on peut voir aussi la venue de Jésus comme une venue peut-être plus spirituelle, mais qui accomplit la parole de Jésus qui disait « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, le croyant aujourd'hui attend à la fois une venue,
une seconde venue
physique qui inaugure ce temps de paix, de nouvelle terre, et en même temps peut jouir dès maintenant de la présence de Jésus en esprit, puisque c'est par l'esprit que Jésus peut être présent tous les jours.
Mais alors, on sent qu'il essaie de faire comprendre quelque chose à travers ce passage, puisqu'il y a cette notion de porte, mais aussi d'attendre à la porte sans la forcer finalement.
Voilà, je pense que là, on est dans l'enseignement que je veux retirer de ce texte. C'est la venue ne peut pas être intrusive, ne peut pas être forcée. Alors, je pense que l'image parle très clairement d'elle-même. Et chacun est à même de s'imaginer la scène. Vous êtes chez vous et il y a la porte d'entrée. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui frappe et qui dit « si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, à ce moment-là, j'entrerai chez lui ». Souvent, j'aime à faire remarquer que Jésus insiste dans le sens où il y a deux sons différents, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte, mais il dit aussi « si quelqu'un entend ma voix, m'entend ». Donc on imagine concrètement Jésus qui frappe et qui en même temps qui dit « c'est moi, je suis là ». Et voilà, il a vraiment cette envie d'entrer, mais il ne force pas la porte. Alors, c'est intéressant parce que il y a toujours, de toute façon, au-delà du premier message qui, obligatoirement, est un message spirituel concernant Dieu, je trouve qu'il y a souvent des leçons de vie. Là, on a une leçon par rapport à l'attitude à adopter dans le respect de l'autre et de sa liberté de nous accueillir ou pas. À un moment, on ne peut pas forcer la porte d'entrée de quelqu'un, même si on pense que la rencontre sera profitable pour les deux, eh bien on doit être à la porte et attendre que l'autre ouvre. Et là, je pense que c'est intéressant d'un point de vue... Là, on peut mettre même presque la spiritualité de côté, être juste dans les rapports l'un à l'autre, hein, dans la psychologie. Vous pouvez jamais violer la conscience de quelqu'un. Vous pouvez lui parler, lui dire « c'est moi », frapper à la porte, hein, et attendre que la personne ouvre. Et ce texte continue où Jésus dit « ben voilà, si vous ouvrez, j'entrerai chez vous, et puis je dînerai avec lui, et cette personne dînera avec moi ».
Alors ça symbolise quoi justement ce dîner, Pierre Péchou ?
Alors, le thème du repas partagé est un thème central dans la Bible qui fonde en fait la relation à l'autre et l'acceptation de l'un et de l'autre. En fait, il n'y a pas d'amitié dans la Bible, de conciliation, de réconciliation sans un repas partagé. On ne va pas se serrer la main simplement, on va partager le repas, s'asseoir à la même table. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette rencontre, elle est une rencontre amicale, fraternelle. C'est une rencontre d'alliance. Si je veux prendre un autre mot biblique, le repas partagé est le signe de l'alliance effective. Mais encore une notion intéressante, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'on peut s'imaginer la scène, nous à l'intérieur, quelqu'un de l'autre côté de la porte, et puis on frappe à la porte. Quand il y a cette notion de repas partagé, eh bien moi j'imagine que la personne rentre et partage mon repas que j'ai préparé moi. Mais il y a un autre thème dans la Bible, c'est Dieu qui pourvoit à tout. Moi, j'aime bien imaginer cette scène où quand j'ouvre la porte à Jésus, en fait, il vient lui-même avec le repas. Et là, dans ces cas-là, le repas symbolise tout ce dont j'ai besoin. Alors, ça peut être en termes de qualification, en termes de compétences. Oui, on peut énormément élargir le thème. Voilà, c'est une invitation à la fois à ouvrir la porte, bien sûr. Hein. Si on veut s'inscrire dans cette relation à Dieu, on sait que Dieu nous respectera et qu'il ne va pas forcer la porte. Mais on peut aussi avoir une lecture de ce texte pour le rapport à l'autre. Et que si on s'inscrit dans une certaine dynamique, ou ouvrir la porte, ça serait voilà, accepter peut-être de vivre une certaine dynamique et bien croire en fait que les qualifications, elles viennent aussi avec cette porte qui s'ouvre. Ça, je trouve ça très intéressant. On peut s'inscrire dans une relation et croire que dans cette relation qui naît, eh bien, il y a la nourriture qui arrive avec pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Ça, je trouve ça encourageant pour chacun d'entre nous.
Sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.